Lyon Demain, le média influenceur d'avenir.
Comment lutter contre la désinformation à l'heure où l'intelligence artificielle démultiplie la création de faux contenus? C'est tout l'enjeu des Assises lyonnaises de l'éducation aux médias et à l'information qui se sont tenues cette année au musée Gadagne, c'était début juillet, des assises organisées par le Club de la Presse de Lyon. Lors de la table ronde intitulée « IA et fake, le journalisme peut-il lutter ?», spécialistes, chercheurs et élus se sont penchés sur ces nouvelles menaces face à l'émergence des intelligences artificielles génératives et aux ingérences étrangères, les tactiques de manipulation se complexifient. Vincent Berthier est responsable du desk technologie et journalisme chez Reporters sans frontières. Il revient sur le rôle de son organisation et sur la diversité des menaces actuelles.
Reporters sans frontières, c'est plusieurs modes d'action. Moi, je fais partie de la rédaction, donc nous, notre mode d'action, c'est la documentation des attaques contre le droit à l'information et la liberté de la presse. Donc, on a documenté des réseaux de désinformation, on a documenté, par exemple, la manière aussi dont les chatbots chinois pouvaient ressortir la propagande chinoise, ou encore comment des faux sites d'information municipaux à l'occasion des élections municipales en France avaient été coordonnés de manière à produire plus de 20 000 publications.
Qui pratique aujourd'hui cette désinformation et comment ça se traduit?
Aujourd'hui, on a plusieurs types de désinformation. On va avoir les informations de l'ingérence étrangère qui commence à être la plus connue. Donc on a évidemment les grands acteurs qui sont la Russie, l'Iran, la Chine, mais aussi les États-Unis qui sont commencent à devenir des acteurs extrêmement importants. On a également des modes de désinformation qui vont plus être par exemple du côté de ce qu'on appelle, j'aime pas trop le terme, mais des théories du complot. Donc tout ce qui va être lié avec le Covid, etc. Et on a aussi une forme de désinformation dont j'aime bien rappeler l'existence, qui est une espèce de désinformation un peu économique, de faux sites d'information locaux parfois, qui en fait produisent des fausses informations qui n'ont aucun sens juste pour en fait attirer du trafic publicitaire.
Ça se traduit comment? Ça se traduit par des images, par du texte, par des sites internet?
Ça se traduit souvent par des sites web qui sont conçus pour une seule chose, c'est être référencé dans Google Discover. Google Discover, c'est la liste d'articles qu'il y a en dessous de la barre de recherche de Google lorsqu'on se connecte à Google sur son mobile. Et en fait, en étant référencé dans Google Discover, il génère énormément de trafic et donc vend de la publicité.
Comment on peut débunker alors ces faux sites ou ces fausses informations?
Alors débunker, c'est toujours un travail extrêmement long. Il y a plusieurs manières de faire. La première, c'est de remonter à la source des informations, mais ça prend toujours du temps. Aujourd'hui, nous, ce qu'on défend, et c'est l'autre pilier de l'action de Reporters sans frontières, c'est plus en fait une réforme et une refonte totale du système informationnel et qui prennent notamment en compte les critères de fiabilité de l'information, ce qui aujourd'hui ne rentre absolument pas dans le modèle économique des plateformes.
Le titre là, c'était IA et fake news. Est-ce que finalement l'IA et les fake news sont complices?
Disons que c'est à la fois un mariage d'amour et de raison, parce que l'IA va très très bien avec la production de faux, et en même temps, son coût fait qu'elle s'est fait une place très rapidement dans l'arsenal des désinformateurs. Mais ses limites, c'est-à-dire le fait que ça génère spontanément du faux, on appelle ça des hallucinations, fait qu'elle se fait une place bien moins rapidement dans les outils des journalistes. Et qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'écart qui risque de se mettre en place, qui est très difficile à documenter parce que les désinformateurs n'ont pas pignon sur rue, entre à la fois des désinformateurs qui utilisent de plus en plus l'IA pour désinformer et des journalistes qui avancent plus prudemment et donc forcément plus lentement dans l'amélioration de leur production.
L'IA, finalement, produit aussi de la fausse information et se fie à cette fausse information pour reproduire autre chose?
L'IA, c'est le mélange entre un système probabiliste qui va être connecté à un ensemble d'outils, dont des moteurs de recherche, qui ne sont pas optimisés pour l'information de qualité, qui ne sont plus optimisés pour l'information de qualité. Donc, on a toujours beaucoup de chances d'avoir des fausses informations.
Face à ce constat, la recherche scientifique et la société civile s'organisent pour armer les citoyens. Arnaud Mercier est professeur en information communication à l'Institut français de presse, est responsable scientifique du projet européen de lutte contre la désinformation, de facto 2. Il détaille pour nous les leviers d'action et analyse l'impact réel de ces fausses informations.
Dans le consortium de facto, on fait en sorte d'avoir ensemble des chercheurs, des journalistes et de la société civile, notamment des gens de l'EMI, avec le CLEMI en première instance. Donc on fait converger toutes nos formations, nos compétences pour essayer d'apporter notre petite pierre à l'édifice de la lutte contre la désinformation. C'est du fact-checking, évidemment, du côté des purs, j'allais dire, du côté des journalistes quand ils travaillent seuls. On a mis en place une méthode de détection de la désinformation spécifiquement par l'image, SemioCheck, en coopération entre des chercheurs spécialistes de Semio et des journalistes. Je fais, à titre personnel, avec d'autres, des interventions de formation de formateurs dans le cadre du CLEMI. On a mis en place donc ce SemioCheck qu'on teste, bien sûr, dans les écoles. J'ai mis moi-même en place un kit pédagogique dit de débiaisement cognitif pour aider à armer les citoyens contre la désinformation en leur expliquant comment la désinformation joue sur l'activation de nos biais cognitifs. Donc il faut avoir conscience de nos biais et des limites de du fonctionnement de notre cerveau pour pas se faire avoir. Bon, voilà, donc on fait converger comme ça plein d'éléments. Puis on a fait une étude sur les photos d'IA et la désinformation pour essayer de les cataloguer un petit peu. D'ailleurs, il y a des images faites par l'IA qui ne servent pas à la désinformation, mais qui servent à la contestation, dont tout le monde sait qu'elles sont fausses. Ça fait rire, c'est de la dérision politique, c'est de la contestation pour ridiculiser un adversaire, pour l'attaquer, mais en étant très explicite sur le fait que c'est monté. Bref, on essaye de faire feu de tout bois avec, et surtout dans le consortium de facto, en faisant valoir la coordination de différentes compétences.
À partir de quand la désinformation devient dangereuse ?
Je pense que la désinformation est dangereuse en soi parce qu'elle est la fossoyeuse de l'idéal démocratique. L'idéal démocratique repose sur l'idée que les citoyens doivent être éclairés. Si on leur confie à une responsabilité, celle de choisir par le vote nos dirigeants, et en échange de cela, il faut qu'ils soient armés en tant que citoyens pour comprendre, et donc ils doivent être informés. Et Proudhon disait « démocratie, c'est démopédie, c'est l'éducation au peuple, etc. » et donc l'information. Et c'est en ce sens que les médias ont un rôle absolument central. C'est une clé de voûte du fonctionnement démocratique, puisque justement, ce sont eux qui servent à faire diffuser une information labellisée comme vrai, en tout cas proche de la réalité. Bon. Donc la désinformation vient heurter de plein fouet cet idéal démocratique puisqu'elle vient semer la confusion chez les citoyens sur ce qui est vrai ou pas, sur quoi on va pouvoir faire porter notre jugement pour voter. Donc c'est mauvais en soi. Après, ça n'a pas toujours un impact. Par exemple, on sait bien, même si on n'a pas de chiffres, mais que dans les ingérences russes, ils créent plein de choses, plein de trucs faux qui ne marchent pas, qui sont inauthentiques, mais disons, j'allais dire qu'il en faut 12 pour qu'il y en ait un qui sorte, quoi. Donc il y a plein de trucs qui n'ont aucun impact, c'est même pas vu, mais on sait aussi, et ils le savent, les désinformateurs, qu'il faut justement créer dans la masse pour qu'il y en ait au moins un qui sorte sur les punaises de lit, la panique, les Jeux Olympiques, les ceci, les cela, bon, voilà. Ensuite, l'impact, bah, ça peut être divers et varié, ça peut, pour moi, le principal impact, c'est de renforcer les gens dans leurs convictions, et souvent les convictions les plus fortes, donc peut-être parfois les plus extrêmes. Et donc ça pollue, ça entretient la polarisation et ça pollue de façon forte la capacité à créer un véritable débat public dans lequel on tolère l'opinion de l'autre parce qu'on est tellement convaincu de ce qu'on pense et on a tellement reçu de confirmations sur ces réseaux de ce qu'on pense que du coup l'opinion inverse apparaît dans le meilleur des cas stupide, dans le pire intolérable, quoi, ou quelque chose comme ça. Donc je pense que le principal effet, c'est ça. Et puis après, l'autre effet quand même, c'est d'introduire le doute, et un doute qui peut devenir un espèce de doute généralisé qui pose problème, parce que finalement, vous avez des gens qui disent, bon, d'ailleurs, on voit bien, il y a des gens, à quoi bon s'informer, de toute façon, on ne peut plus savoir, qui se retirent du jeu de l'information, et du jeu politique, hein, les deux, hein, voilà, et je pense que par rapport à l'idéal démocratique, fabriquer des gens qui doutent au point de ne plus exercer leur citoyenneté, c'est pas bénéfique.
Comment on peut guider le grand public vers justement la vérité ?
Ben, je pense que c'est la responsabilité de chacun en vérité, c'est-à-dire qu'il y a de l'éducation aux médias, il y a le rôle des journalistes, mais il y a aussi la prise de conscience qu'on a chacun notre part de responsabilité. Par exemple, et c'est ça le côté pervers des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est qu'on peut tous participer à une opération de désinformation, même sans le vouloir, même en étant de bonne foi, parce que si on like, on partage quelque chose qui est complètement faux, bah, de fait, on participe à une chaîne. Donc je pense que chaque acteur est responsable, a sa part de responsabilité, à commencer par chaque citoyen. Si ça paraît bizarre, si ça paraît vraiment une info un peu... c'est justement parce que ça paraît bizarre qu'il ne faut pas se dire « Ah bah tiens, ça c'est un scoop, je le publie » ou « Ah ben ça, oui, j'ai toujours pensé ça, ça m'étonne pas de ces connards et donc je vais le diffuser, enfin je sais pas quoi. » Bah, au contraire, c'est de se dire « Attention, ça a l'air spectaculaire, ça a l'air incroyable, raison de plus pour vérifier la source d'où ça vient, tourner 7 fois son pouce avant de tweeter, retweeter ou autre, vérifier, aller voir sur des sites plus sérieux, etc. » Je pense que c'est dans la prise de conscience que chacun chacun a sa responsabilité, que la solution collective jaillira.
Des initiatives locales s'organisent également sur les territoires. Ces assises de l'OMI ont bénéficié cette année du soutien de la métropole de Lyon. Sarah Payon, vice-présidente en charge des collèges, de l'excellence éducative et du devoir de mémoire, rappelle l'engagement de la collectivité auprès des plus jeunes.
La métropole de Lyon a la compétence des collèges, mais aussi une compétence culturelle. Et il est important pour nous d'accompagner nos jeunes, mais aussi nos moins jeunes, hein, évidemment, dans l'éducation média, leur capacité à exercer leur esprit critique, à avoir du recul sur les informations qu'ils reçoivent, qui sont nombreuses, parfois contradictoires et parfois malheureusement inexactes, voire manipulées. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, les choses vont plus s'accélérer. Il est indispensable que nous, Métropole de Lyon, on s'empare du sujet, qu'on puisse accompagner nos jeunes et nos collégiens, accompagner aussi les équipes éducatives dans les établissements pour qu'ils se forment, pour qu'ils apprennent aussi à apprendre, tout simplement, et à pas recevoir une information sans la digérer, sans l'interroger, et pour avoir ce recul critique nécessaire pour devenir des citoyens éclairés.
Comment la métropole peut stimuler l'action dans ce domaine ?
Nous, on va à la rencontre des établissements avec un portail d'action éducative, un peu un système de menu à la carte d'action qu'on met à disposition des établissements qui existaient déjà, mais auxquels on va donner une coloration très forte sur les sujets d'éducation aux médias, sur la question des réseaux sociaux, sur la question des écrans aussi. Tout est lié sur la question de la santé mentale, du harcèlement scolaire, qui ne passe pas forcément par les réseaux sociaux, mais qui peut y passer, sur tous ces sujets-là qui sont des sujets d'actualité et qui finalement, en fait, ont été éclairés malheureusement par des faits divers récemment. On considère qu'aujourd'hui, dans les établissements, les médias, les réseaux sociaux touchent nos jeunes, donc il faut qu'on s'en préoccupe et qu'on aille vers les équipes éducatives, vers les élèves et vers les familles.
Développer l'esprit critique, réguler les plateformes et former dès le plus jeune âge. La riposte face aux dérives de l'IA et de la désinformation s'organise donc à tous les niveaux, de la recherche européenne au terrain local.